Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise, bonjour chers amis.
Comme tous les lundis matin, nous conversons autour de la géopolitique mondiale. Et bien, cette semaine, c'est la cinquième visite d'Anthony Blinken qui a attiré notre attention. Israël et les États-Unis sont les deux pays qui parlent beaucoup depuis le début de cette guerre le 7 octobre. Alors, Daniel Haber, cette visite d'Anthony Blinken, elle met quand même en lumière certaines divergences entre Israël et les États-Unis.
Oui, bon, c'est assez naturel que ce soit les deux seules nations qui parlent, parce qu'elles sont les deux seules qui sont engagées, hein. Israël est engagé dans la guerre et les États-Unis sont les seuls qui les soutiennent et tous les autres sont silencieux en réalité. Peuvent lancer des anathèmes ou des insultes, mais au fond, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est l'attitude des États-Unis. Et là, évidemment, il y a cette apparence de contradiction, voire même de débat, voire même de conflit possible entre les deux points de vue. Rappelons que pour les Israéliens, et depuis le début, c'est clair, la décision stratégique centrale, c'est de tout mettre sur la guerre contre le Hamas, avec un objectif très clair. Alors, je ne sais pas s'il faut toujours parler d'éradication, mais en tout cas d'expulser définitivement, quoi qu'ils reviennent, le Hamas de Gaza. C'est la condition préalable à tout développement ultérieur, tout développement politique ou géopolitique ultérieur pour Israël, et Israël a raison. Tant que le Hamas sera là, on pourra pas avancer. Et surtout, pour Israël, il est important de redresser son image et sa crédibilité. Israël, je l'ai déjà utilisé cette formule, a mis un genou à terre le 7 octobre. Et donc cette faiblesse, cette vulnérabilité, c'est un signal terrible vis-à-vis des ennemis. Mais si, c'est aussi un mauvais signal vis-à-vis des futurs amis, des futurs partenaires, que sera l'Arabie Saoudite et que sont l'Égypte, etc. Ces pays-là ne feront un partenariat avec Israël que s'il est fort. Que s'il est fort. Inversement, vous avez du côté américain au moins quatre raisons pour lesquelles ils ont envie que la guerre cesse tout de suite, alors que pour Israël, il est clair que la guerre doit continuer. Il faut attaquer Rafah maintenant. Rafah, c'est la frontière avec l'Égypte. Donc, on constate que depuis 40 ans, cette frontière, elle est totalement poreuse. Comment imaginer l'énormité de la contrebande qu'il y a eu lorsqu'on sait qu'en 40 ans, ils ont pu, le Hamas, construire quatre fois le métro de Paris. C'est un peu l'image qu'on donne pour les tunnels. Donc, ça s'est pas fait comme ça par des petites contrebandes. C'est une contrebande gigantesque dont évidemment le gouvernement égyptien était au courant. Donc là, il faut absolument sceller cette frontière, et donc l'attaque de Rafah, elle est indispensable. Alors, pour les Américains, au contraire, il y a quatre raisons pour vouloir cesser très vite. La première, c'est que l'image de l'Occident continue de se dégrader dans ce qu'on appelle le monde, le Sud global et tous les contestataires. Je dirais que tous les islamo-gauchistes de la Terre utilisent toutes les images de bombardement et la crise humanitaire de Gaza pour l'instrumentaliser et accuser l'Occident. Et évidemment, les Américains sont l'image même du leader de l'Occident. La deuxième, c'est que les Américains ont peur d'être entraînés dans un conflit. Et les conflits pourraient venir, si la guerre de Gaza se prolongeait, elle va se prolonger, pourraient venir du nord avec le Hezbollah et viendraient du sud avec les Houthis. Et là, les Américains sont obligés d'intervenir, ce qui, évidemment, est leur dernière des souhaits. La troisième, c'est que, et c'est lié à ça, il y a des élections, et en face de Biden, il y a un Trump qui va jouer sur l'électorat isolationniste américain, qui est une grande tendance classique des Américains, America First. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et puis, la dernière, en filigrane, c'est l'obsession américaine d'éviter un conflit frontal avec l'Iran, et qui a conduit Obama à signer ce très mauvais accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Donc on voit que ces deux positions correspondent à des visions de leur intérêt qui sont effectivement pas tout à fait les mêmes.
Et comment Israël et les États-Unis peuvent-ils parvenir à gérer ces divergences?
Écoutez, moi je ne suis pas trop pessimiste parce que je pense que d'une part, les Américains, contrairement au passé où ils faisaient pression pour une fin rapide, ont compris que la restauration de la crédibilité israélienne était indispensable à leur propre restauration de crédibilité, parce qu'ils l'ont perdu avec l'Afghanistan, souvenez-vous-en. Et donc, si demain les Américains veulent construire un Moyen-Orient qu'ils contrôlent plus ou moins autour d'un axe Israël plus les Arabes sunnites, notamment l'Arabie saoudite avec lequel le dialogue doit reprendre, il est indispensable de rétablir et la crédibilité d'Israël et la crédibilité américaine. Donc c'est pour ça que je suis assez optimiste, mais vous avez ces raisons que j'ai données tout à l'heure de temporalité qui font que les Américains doivent jouer un petit peu sur les deux tableaux à la fois. Et donc, comment font-ils au fond pour jouer sur les deux tableaux à la fois? Et on l'a sous les yeux. Vous parliez de la visite de Blinken. En fait, vous avez au fond quatre speakers, quatre communicants du côté de la position américaine. Vous avez d'abord Blinken, qui est préposé à l'humanitaire. Il fait tirer les larmes sur ces pauvres Gazaouis, etc., la crise humanitaire, les otages. Donc, il joue sur la fibre émotionnelle. C'est son rôle et d'ailleurs, c'est son tempérament. Donc, ça tombe très bien. Et puis, vous avez derrière des gens plus sérieux, comme Lloyd Austin, qui est le général afro-américain qui est ministre de la Défense et qui, lui, pousse au soutien militaire constant, qui est actuel, hein, malgré les critiques, les Américains continuent à envoyer et de l'argent et des armes à Israël et des informations. Donc il y a un soutien indéfectible. Hein, et là, il est mené par Lloyd Austin. Vous avez le stratège qui est Jack Sullivan, qui rappelle que l'objectif stratégique américain est le même que celui d'Israël, et qui, au fond, a bien expliqué que l'État palestinien, la solution à deux États que poussent les Américains justement pour maintenir leur image vis-à-vis du monde, obéissait à des conditions très strictes. Qu'il faudrait discuter, on pourra en parler une autre fois, mais en particulier la garantie de sécurité pour Israël, et que si vous regardez de très près les conditions mises par Sullivan à l'établissement éventuel d'un État palestinien, sont parfaitement acceptables par Israël et parfaitement inacceptables par les Palestiniens, en tout cas ceux qui suivent le Hamas, qui sont aujourd'hui la majorité. Donc, si vous voulez, et puis vous avez Biden qui fait la synthèse et qui balbutie quelques paroles que personne ne comprend, qui joue un peu sur l'âge et sur sa maladie, et finalement chacun comprend ce qu'il veut. Donc, vous voyez, il y a une très grande ambiguïté dans la position américaine. Et puis, si vous voulez, la manœuvre essentielle des Américains sur Israël est de ne pas s'en prendre à Israël, mais de s'en prendre à Bibi. De s'en prendre à Netanyahou. C'est d'autant plus facile pour Biden que Trump et Bibi étaient des amis étroits. Donc ça chiffonnait beaucoup Obama, dont Biden a été le vice-président pendant 8 ans, faut jamais oublier ça, et que Bibi a beaucoup humilié Obama. Souvenez-vous en 2015 quand Bibi s'est adressé au Congrès américain sans passer par la Maison Blanche. Donc, si vous voulez, il y a tout ça qui fait que Biden s'en prend à Bibi. Il s'en prend aussi en envoyant Blinken parler aux ennemis politiques de Bibi. Il parle à Gantz, il parle à Blinken vient de parler à Gantz, vient de parler longuement à Lapid, qui sont les critiques de Bibi, et on voit aussi cette pression sur Bibi jouer cyniquement sur la question des otages, avec un Lapid quand même qui à la fois dit c'est scandaleux de ne pas s'occuper des otages, pour ajouter tout de suite, mais que les otages sont la priorité, mais aussi de vaincre le Hamas est la meilleure priorité. Donc il dit exactement la même chose que Bibi au fond. Donc voyez ce jeu américain extrêmement ambigu qui montre qu'au fond, les Américains savent qu'ils sont dans une totale contradiction, ils le voient bien, et qu'ils sont obligés de jouer un petit peu sur les deux tableaux. Et que si je devais conclure maintenant, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais il semble que la seule façon pour Israël de s'en sortir face à cette ambiguïté américaine, c'est de tenir le cap. De tenir le cap de la priorité de la guerre à Gaza. Elle n'est pas terminée. On voit bien qu'il y a un travail à faire, que Tsahal mène avec détermination, avec un plan. Les surprises, elles sont gérées instantanément et plutôt bien. Donc, il faut garder le cap. Il faut garder le cap face à des Américains qui ont du mal à le garder parce que ils ont des intérêts contradictoires.
Daniel Abert, nous arrivons à la fin de ces conversations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt. Au revoir.